Place Info.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une heure de débat sur l'actualité avec quatre invités de choix comme tous les soirs, mais pas la peine de vous le dire, vous connaissez cette émission. Et comme nous n'avons pas de temps à perdre, je vais tout de suite vous présenter les quatre informés du soir. Bonsoir Benjamin Grand.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Dentsu. En face de vous, Clotilde Ripoul. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'Association nationale des élus locaux d'opposition. Arnaud Clair, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au barreau de Paris. Enfin, pour terminer ce quatuor, Étienne Girard, bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Journaliste politique à Marianne. Ils sont affûtés comme jamais. Et on va tout de suite passer à notre premier débat. Et vous le savez, l'actualité ce soir, eh bien, c'est le parquet antiterroriste qui se saisit de l'affaire du quadruple meurtre de la préfecture de police. On pouvait penser que c'était l'acte d'un déséquilibré, mais la justice estime donc qu'il s'agit d'un acte terroriste. Dans le fond, qu'est-ce que ça change, Étienne Girard ?
Ça change évidemment la nature de l'acte. Si c'est un acte terroriste, ça n'a rien à voir avec un simple coup de folie ou un pétage de plomb de la part de ce fonctionnaire. À ce stade, j'appellerais quand même à la prudence parce que le fait que le parquet antiterroriste soit saisi signifie qu'il y a des éléments qui permettent de retenir la piste terroriste. Ça veut pas dire que la piste terroriste est actée. D'autant plus que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a un certain nombre d'inexactitudes qui sont diffusées depuis hier et même notamment par des syndicalistes policiers qui le font de bonne foi. Mais a priori, il y a certains éléments. Par exemple, le fait, vous avez dû entendre parler, en tout cas ça circule sur les réseaux sociaux, certains médias se sont même fait l'écho, l'idée que l'assassin était radicalisé, aurait refusé de serrer la main de certains de ses collègues, c'est pas du tout vérifié. Mmh. À ce stade, ce qui veut pas dire que c'est pas le cas, ça veut dire que c'est pas vérifié à ce stade. Donc à ce stade, ce n'est pas une information. Donc il y a un certain nombre de choses qui circulent, qui ont pu être dites et qui doivent être prises avec les plus grandes pincettes, les plus grandes précautions. Donc, à ce stade.
Prudence, Arnaud Clair, qu'est-ce que ça change finalement cette saisie par le parquet?
Ça permet aussi au parquet d'avoir des moyens d'investigation et d'enquête plus importants. Peut-être que justement, puisqu'il y a des incertitudes, ils ont besoin, notamment en termes de garde à vue, d'avoir des moyens plus larges et donc des moyens d'investigation plus importants, ce qui va peut-être aider l'enquête. Donc en basculant de ce côté-là avec l'antiterroriste, vous avez un parquet qui est plus armé, qui a plus de temps et donc qui va pouvoir préciser les choses. C'est peut-être aussi ça l'objectif.
Son épouse pourrait notamment rester en garde à vue
plus longtemps, etc.
Ouais. Voilà. Clotilde Ripoul.
C'est un élément dramatique, enfin cet événement est vraiment dramatique parce que la police française est déjà secouée par un certain nombre de difficultés. Elle est frappée dans son sein. Donc, dans ce contexte-là, moi, je m'interroge, Étienne Girard, par d'éléments qui circulent, qui sont invérifiés, etc. Pourquoi est-ce que dans un événement de cette, avec cet ensemble de faits, on bascule pas tout de suite au parquet antiterroriste?
Parce que si, voilà. Peut-être que s'il s'agit juste de l'œuvre d'un déséquilibré.
Je trouve que, et dans ces cas-là, on ferait marche arrière. Tandis qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des éléments qui circulent, qui sont pas vérifiés, qui sont balancés comme ça, avec une théorie du complot dans la société qui est extrêmement rapide à se mettre en place, c'est-à-dire sous-entendant que on cherche à cacher des choses, etc. Moi, je trouverais préférable, dans un tel contexte, qu'on rentre tout de suite dans une procédure qui soit gérée par l'antiterrorisme et qu'après, éventuellement, on fasse marche arrière une fois les éléments vérifiés, plutôt que d'avoir dans une société qui est sous tension des éléments qui circulent.
Mais ce serait pas trop anxiogène de tout de suite saisir
le parquet antiterroriste? Je trouve que ce qui est anxiogène aujourd'hui, c'est cette espèce de facilité à être dans la théorie du complot immédiatement, parce que des éléments sont invérifiés et qu'on a l'impression que ça peut être dissimulé par telle ou telle institution. Ça, c'est gênant. Par contre, que l'on soit dans un pays qui est quand même sous une menace terroriste, dans quelque chose, dans une procédure systématique pour vérifier dès le départ et éviter la surenchère et l'hystérisation de la société, je trouverais ça mieux finalement. Et je pense que ça calmerait un certain nombre de choses, parce que quand on voit les réactions, y compris du personnel politique, c'est dramatique.
On va y venir, Benjamin Grange d'abord.
Alors en fait, évidemment, sur les réseaux sociaux et globalement, les Français en parlent beaucoup. Alors
vous scrutez voilà, évidemment les réseaux sociaux.
Alors évidemment, il y a beaucoup d'émotions. Il y a un choc. C'est évident, une condamnation globale. Alors après, je voulais revenir sur la manière dont ça se passe. À chaque fois qu'il y a un drame comme ça, une fois qu'on enlève l'émotion, il y a toujours énormément de choses qui circulent. Parce que il y a immédiatement une recherche d'un cadre d'explication. Ce cadre, il est vrai ou pas vrai. C'est là que se développent parfois des théories du complot, parfois des théories un peu douteuses, et parfois il y a des vrais éléments. Et puis parfois, évidemment, il y a des fake news qui peuvent se greffer, parce qu'il y a des gens qui veulent. Là, aujourd'hui, on a un mélange, et il est beaucoup trop tôt pour en dire. Donc là encore, je vous rejoindrai, très grande prudence.
Alors regardez ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce tweet de Marine Le Pen, hein. Si la dimension terroriste se confirme, ce serait un scandale majeur parce qu'il travaillait à la préfecture de police. On est en passe de découvrir un scandale majeur pour vous, Étienne Girard ?
Ce qui me gêne, c'est que là, on doit commenter des hypothèses. On est sûr de rien à ce stade, donc je peux vous dire oui, si c'était vérifié, il s'agirait de quelque chose d'extrêmement problématique. Effectivement, dans la mesure où Christophe Castaner a expliqué hier devant les caméras que le fonctionnaire en question n'avait pas jusqu'alors pas posé de problème particulier, mais il faut quand même, quand on dit ça, à ce stade, il me semble qu'il faut rappeler qu'on ne sait rien de sûr et de tout à fait tangible aujourd'hui. Et la difficulté, c'est celle du temps médiatique. Il faut accepter que le temps médiatique demande des infos immédiates parce que le public est frustré, veut un cadre d'explication, comme ça vient d'être dit. Mais le temps de l'enquête sérieuse n'est pas le même. Et il faut attendre un peu plus longtemps, il me semble.
Allez, vous regardez, vous écoutez Les Informés. Il est 20h10. On va laisser passer l'info. On se retrouve dans 80 secondes. Mais d'abord, toute l'actualité, c'est avec vous, Jules de Kiss.
L'auteur de l'agression mortelle hier à la préfecture de police de Paris a acheté son couteau le matin même. Avant de tuer 4 de ses collègues, il a envoyé un SMS à sa femme qui lui a répondu « Seul Dieu te jugera ». Au vu de ces nouveaux éléments, notamment le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête. Enquête requalifiée pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. La compagne de l'auteur des faits est toujours interrogée par les enquêteurs. Sa garde à vue est prolongée, elle peut durer 3 jours encore. Elle affirme que son mari a entendu des voix et eu des visions quelques heures avant son passage à l'acte. Le lycéen de 15 ans qui est mort ce matin poignardé au Lilas tentait de s'interposer dans une bagarre. D'après les premiers éléments de l'enquête recueillis par France Info, il aurait voulu protéger un de ses amis pris à partie dans la rue tout près d'un collège. L'auteur présumé des coups de couteau a lui aussi 15 ans. Il a été interpellé chez lui tout comme 2 autres mineurs placés en garde à vue. On est des couillons nous-mêmes. C'est Emmanuel Macron qui a lancé cette phrase à des éleveurs tout à l'heure près de Clermont-Ferrand. Il déplore la mauvaise organisation de la filière viande qui souffre d'après lui du monopole du groupe Bigard qui règne sans partage sur la distribution. Le gouvernement propose donc de financer des abattoirs pour briser cette dépendance. Et puis dans une grosse demi-heure maintenant, les Olympiens vont fouler la pelouse de la Licorne. Amiens, Marseille, coup d'envoi à 20h45.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Bon, vous l'avez entendu, hein, c'est le président qui l'a dit, on est des couillons nous-mêmes, parce que c'est l'autre actualité du jour. Emmanuel Macron, qui après avoir lancé son grand débat sur les retraites à Rodez, a pris le chemin de Cournon d'Auvergne à la rencontre des éleveurs. Vous avez aimé Jacques Chirac, vous allez adorer cet échange entre le président de la République et un éleveur.
Aidez-nous parce qu'on est vraiment en difficulté.
Bah, là, on va aider sur la sécheresse.
Oui, mais donnez-nous des perspectives pour le monde agricole parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la société française ne veut plus d'agriculture française.
C'est pas vrai, c'est pas
vrai. Et là, on a besoin de vous.
Alors, donc, je suis venu.
Rassurez-nous là-dessus parce que
si je suis
moral est touché chez nous.
Si je suis venu, j'avais pas prévu de venir. C'est parce que je n'en peux plus non plus de ce qu'on appelle l'agribashing.
Voilà, plus d'agribashing. C'est une bonne idée, Benjamin Grange, d'aller prendre le pouls du pays au fin fond de l'Auvergne. Et on salue les Auvergnats, hein, évidemment.
Alors, je vous le confirme, il existe un vrai sentiment de culpabilité chez les agriculteurs. Ils ont peur, évidemment, d'être stigmatisés. Et dans les faits, les Français aiment les agriculteurs. On a beau faire toutes les enquêtes que l'on veut, eh bien, chaque fois, on va considérer que les Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Ils aiment les agriculteurs. C'est même, quand ils en parlent sur les réseaux sociaux, un métier qui fait rêver. Et d'ailleurs, les messages le disent. C'est un univers, c'est une alternative de vie pour un nombre grandissant, en fait, de personnes. Mais cependant, c'est vrai que se développe le sujet de l'agribashing. Et cet agribashing, il monte. C'était avant un sujet très petit, et c'est petit à petit...
C'est quoi l'agribashing? C'est dire en fait, l'agribashing, c'est les agriculteurs, ils polluent...
Dans l'agribashing, ce ne sont pas les agriculteurs qui sont visés. En réalité, ce qui est critiqué à travers l'agribashing, c'est l'implication en amont de la production agricole, de l'agrochimie, de la biochimie, et en aval, la distribution agroalimentaire. En d'autres termes, la distribution qui pousse à cette agriculture intensive. Donc en d'autres termes, c'est l'amont et l'aval de la filière qui est extrêmement stigmatisée, mais évidemment pas les agriculteurs.
Alors Benjamin Grange, évidemment, il a les yeux rivés sur ses écrans, il regarde de quoi on parle, mais nous ici on fait de la politique, Benjamin Grange, Clotilde Ripoul, c'est quoi? C'est un coup politique qu'a fait Emmanuel Macron? En plus, il paraît que c'était pas prévu qu'il aille à Cournon d'Auvergne.
Il essaie d'appliquer une pommade communicationnelle sur une plaie sociétale. C'est assez classique chez Emmanuel Macron maintenant. On a l'impression que les agriculteurs, ils sont quand même pris entre tout un tas de débats. Le CETA, les zones de non-traitement, ces problèmes de prix de vente des produits. Et ils ont lancé une alerte pour le 22 octobre. Emmanuel Macron, je pense, s'inquiète. Il a en tête ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes.
On
est dans une société sous tension. Si l'alerte du 22 octobre venait à prendre, plus les retraites, plus d'autres choses. Voilà. Ce qui est un peu inquiétant chez Emmanuel Macron, c'est que c'est toujours lui qui est quand même sur le front. C'est-à-dire que il est perpétuellement obligé d'aller au contact, comme s'il n'y avait pas d'intermédiaire susceptible de faire le poids de façon suffisamment conséquente. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est récurrent dans sa façon de gérer le pays, c'est qu'on a l'impression qu'il est obligé d'aller au charbon sans arrêt. Donc la veille sur les retraites, le lendemain sur l'agriculture, est-ce que demain ça sera par rapport à la PMA et la GPA? Tous les sujets, il les enchaîne. Alors il est brillant, mais il y a un moment où il semble pas prendre la mesure de ce problème sociétal.
Arnaud Clair, qu'est-ce que cherche Emmanuel Macron à déminer?
Non, il y a beaucoup de sources d'inquiétude. Hier, c'était effectivement les retraites. Et lui-même le disait, hier, il y a des liens, il y a de l'incompréhension. Donc, je suis là pour vous expliquer et pour gommer les incompréhensions. Là, il va y avoir les agriculteurs qui lui disent, on est inquiets, on n'en peut plus, etc. Donc, effectivement, il essaye de partir partout. Il y a des inquiétudes.
Il pourrait partir à Rouen, d'ailleurs, là.
Voilà, ça sera la suite. Mais effectivement, ce qui est étonnant, c'est qu'il est en première ligne. Ce qui fait qu'à chaque fois, il s'expose. Ce qui fait qu'il va peut-être pouvoir réussir à régler une inquiétude, deux inquiétudes, mais il y a un moment, il n'y aura plus de fusible s'il y a des vrais problèmes, parce que son premier ministre n'est pas en première ligne, puisque c'est lui qui passe. Donc on sent qu'il aime ça, on sent d'ailleurs qu'il est assez bon, moi je trouve à chaque fois, parce qu'il trouve les mots justes, etc. Mais il y a un moment, les mots ça suffit pas, et dans les élections vont arriver quand même assez rapidement, et les Français vont lui dire, bon, vous avez vu nos inquiétudes, donc en plus vous pouvez pas ne pas dire vous saviez pas, donc maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interventions de sa part, mais du coup, il se met en risque.
Étienne Girard, cette stratégie de surexposition d'Emmanuel Macron, hein, qui est bien décrite par vos corrélégionnaires, c'est la bonne stratégie?
Il n'a pas le choix. D'ailleurs, c'est amusant d'en reparler ici, parce que je me rappelle à la rentrée, tout début du mois de septembre, fin du mois d'août, on nous annonçait un président Macron en recul. Il va laisser faire Édouard Philippe.
Il est peut-être en recul dans les sondages, non?
Il montait d'ailleurs à ce moment-là. Il continue à monter un petit peu. On nous annonçait un acte 2 du quinquennat, le président plus discret, plus en hauteur. Il va laisser Édouard Philippe gérer les dossiers. Pas du tout, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'y a qu'une seule personne qui prend la lumière dans ce gouvernement. gouvernement, dans l'exécutif au sens large, et c'est Emmanuel Macron. Les lieutenants ne sont pas au niveau, ne sont pas capables de faire un sujet à la télé qui va retenir l'attention des gens avec des paroles fortes.
Il n'est pas tout seul quand même.
Il n'est pas tout seul, mais avec un capital et une légitimité politique forte, il est quasiment aujourd'hui tout seul, et c'est un vrai problème parce qu'il va s'épuiser, et surtout, c'est sur lui que pèse tout le ressentiment. Il n'a pas de fusible sur lequel pourrait peser un peu de ressentiment.
Benjamin Grange, il arrive tout de même à calmer les inquiétudes, Emmanuel Macron, quand il se déplace ainsi sur le terrain, quand il va au contact.
Alors surtout, il y a un coup tactique parce que on a parlé des agriculteurs, mais le sujet qui fâche, qui est en lien évidemment avec l'environnement, c'est le sujet des pesticides et du glyphosate. Et on en parle énormément. Et les Français sont extrêmement sensibles sur le sujet. Donc évidemment, tactiquement, plus on va mettre un coup de projecteur sur les agriculteurs, plus on va montrer que finalement il faut les protéger, etc. Plus on met de côté le vrai sujet qui fâche, qui sont les glyphosates.
Il y a le CETA quand même, hein, qui fait très peur au monde agricole. Et puis alors là, qui est un petit peu, comment dire, le péché originel d'Emmanuel Macron, aux yeux des agriculteurs.
Il y a des députés qui se sont fait exclure du salon de l'élevage parce qu'ils avaient voté le CETA. Enfin, on sent qu'il y a quand même un mal-être. Il y a un sondage qui est sorti qui dit que 68% des Français trouvent la politique d'Emmanuel Macron mauvaise quand même. Donc cette tentation de la communication permanente, elle résout pas véritablement le problème de l'adhésion à cette politique. Hein. C'est bien, c'est l'exercice reste brillant, mais la question pourquoi les ministres prennent pas la lumière, peut-être parce que ils ont été mal choisis, ou ils sont pas suffisamment mis en avant, ou alors ils prennent pas leur rôle comme ils le devraient. Mais c'est vrai que là on est dans un pouvoir d'hyper président, hein. C'est plus du tout le président mitterrandien qu'il a voulu nous poser au moment de son élection.
Arnaud Clair.
Non, sur le CETA, il faut faire aussi une petite ambiguïté aussi avec les agriculteurs, parce que une des réponses du gouvernement, c'est de dire aussi, mais les agriculteurs nous demandent à pouvoir exporter leurs produits. Or, le CETA, ça permet aussi de vendre aux autres. Mais du coup, il faut accepter que les autres vous vendent. Donc, il y a aussi ce côté purement commercial d'échange. Et ça, les agriculteurs lui demandent aussi des solutions pour vendre à l'étranger.
Allez, 20h20 sur France Info. Vous restez bien en place. Jules Dequisse vient de nous rejoindre dans ce studio pour l'info. On se retrouve juste après.
Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête après l'agression mortelle d'hier à la préfecture de police de Paris, car on en sait plus ce soir sur le profil de l'homme qui a tué 4 de ses collègues. Les enquêteurs ont analysé son téléphone, auditionné ses proches. Il a acheté le couteau le matin même de ses meurtres. Il a écrit un SMS à sa femme qui lui a répondu « Seul Dieu te jugera ». Elle est actuellement en garde à vue, questionnée par les enquêteurs. Elle leur affirme que son mari, converti à l'islam il y a plus d'un an, a entendu des voix et eu des visions la veille de son passage à l'acte. Au Lila, les parents d'élèves, les habitants, les enseignants crient leur colère et leur désarroi après la mort d'un adolescent de 15 ans ce matin. Il a été poignardé tout près d'un collège par 3 autres jeunes. Il aurait tenté de s'interposer dans une bagarre pour protéger un ami. L'agresseur présumé est en garde à vue, tout comme 2 autres jeunes. Alain Carignon ne mène pas le combat de sa vie, il ne joue pas son va-tout. Il l'assure sur France Info alors qu'il brigue la mairie de Grenoble aux prochaines municipales. C'est une ville qu'il a dirigée pendant 12 ans jusqu'en 1995. Sa liste d'hiver droite est créditée de 20% des intentions de vote d'après notre sondage Odoxa CGI. Il est loin derrière le maire écologiste sortant Éric Piolle avec 32%, mais il devance de peu la liste de La République En Marche. Et puis en football, Claude Puel est nommé nouvel entraîneur de Saint-Etienne. Il remplace Ghislain Printemps alors que les Verts sont 19e de la Ligue 1.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Allez, on parlait de la communication d'Emmanuel Macron. Eh bien, est-ce que c'est un autre aspect de cette communication présidentielle ou bien une démarche totalement novatrice? En tout cas, j'aimerais vous faire débattre de cette convention citoyenne sur le climat qui s'est ouverte cet après-midi. 150 citoyens tirés au sort qui doivent siéger, proposer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est le Premier ministre qui leur a donné les règles du jeu. On l'écoute.
Vous incarnez une forme de démocratie participative inédite. Nous souhaitons que cette forme inaugure une nouvelle manière de produire des idées, des solutions, peut-être, qui sait, du consensus, en tout cas du débat public, autour de solutions qui émanent directement de nos concitoyens et qui sont directement destinées à nos concitoyens.
Voilà, Édouard Philippe, cet après-midi, ces citoyens vont se retrouver pour 6 week-ends de travail d'ici la fin janvier. Clotilde Ripoul, cette convention sur le climat, ça peut déboucher sur quelque chose de concret ?
Jean, on ne peut que se féliciter de mettre en place de la concertation. A priori, c'est toujours bien. Maintenant, est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose de concret ? Emmanuel Macron a promis d'être sans filtre, enfin de ne pas réguler ce qui en sortirait, mais que ça soit concrètement passé, soit dans des réglementations, soit par voie référendaire, soit par voie parlementaire. Donc c'est un peu un test, je pense. Hein. On a vu dans certains pays européens des consultations de ce type. En Irlande, tout à fait, ouais. Où ça aboutit à des mesures concrètes,
sur tout à fait,
sur des questions plutôt sociétales. C'est vrai que le climat, c'est quand même plus compliqué de répondre par oui ou par non sur des mesures. En Islande, il y avait eu le même effort après la crise de 2008, et puis là, par contre, ça avait été balayé très rapidement par le gouvernement suivant. Donc voilà, il y a la moitié des Français qui sont pas convaincus par l'exercice. Donc après un grand débat national qui a quand même pas donné grand-chose de concret au niveau des mesures suite à la concertation, je pense que là il y a un enjeu pour Emmanuel Macron de démontrer sa capacité à passer d'une concertation de façade à de vraies mesures.
Bon, Arnaud Clair, vous qui lisez comme dans un livre ouvert dans la Macronie, dites-nous la vérité. C'est juste une façon de se rabibocher avec le peuple français après les gilets jaunes.
C'est un bon test. On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense que j'ai assez confiance dans les 150. Je pense que ça peut être assez drôle et il pourrait même déborder un peu.
Ça vous fait rire en plus.
Non, parce que donner 150 personnes la possibilité de trouver des idées, parce qu'en gros, le gouvernement va quand même être un peu obligé d'en prendre une ou deux à la fin, parce que sinon, ça va montrer que ça sert à rien et qu'ils les écoutent pas. Donc, ils vont être obligés de les écouter, donc de prendre quelques idées. Et je pense que les 150 en question, je trouverais ça assez intéressant, qu'ils débordent un peu le gouvernement, ce qu'ils attendent et qu'ils fassent des choses un peu nouvelles.
Bon, et vous en avez des idées ?
Non, j'en ai pas.
Bon, vous n'avez pas parmi les 150 ?
Exactement.
Bon, maintenant, mieux Étienne Girard.
Non, c'est un gadget de communication, cette affaire de la convention tirée au sort. Bon, déjà, elle n'aura pas de vrai pouvoir décisionnaire. Elle va formuler des propositions chargées à l'exécutif de dire oui ou non. Effectivement, ce serait sans doute mal vu et un peu trop grossier de n'en retenir aucune.
Donc c'est Arnaud qui nous le disait.
Oui, alors ça, d'accord. Ouais. Mais quelles propositions seront retenues ? Celles que l'exécutif avait déjà en tête à l'avance. C'est-à-dire qu'ils vont faire le tri entre les propositions qui leur vont bien et les propositions qui ne leur vont pas. De toute façon, la légitimité de cette de convention, elle est toute relative, et ça, c'est le problème du tirage au sort. Moi, je fais partie des gens qui pensent que on est légitime quand on a porté des idées, quand on a convaincu, et que quand on est tiré, un simple citoyen tiré au sort, on est un peu moins légitime.
Benjamin Grange, vous voyez dodeliner de la tête.
Oui, parce que en fait, c'est ces sujets-là et ces sujets finalement de gouvernance de l'environnement, de l'écologie, sont des sujets complexes qui s'inscrivent dans le temps long. C'est des défis de temps long et la politique s'inscrit dans le temps court. Et d'ailleurs, on le voit dans la manière dont les Français s'expriment et le paradoxe qu'il y a derrière. Parce que il n'y a pas une fois dans l'année qui s'est écoulée où les Français n'ont pas dit oui, la protection de l'environnement, c'est notre première préoccupation. C'est dit et redit. Et puis en même temps, ils disent il faut absolument mettre plus d'écologie dans la politique d'Emmanuel Macron. C'est encore dit. Et puis à côté de ça, quand on leur dit finalement, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut arriver à endiguer un certain nombre de conséquences funestes de la canicule, etc. Il y a plus d'une moitié de Français qui dit non. Donc il y a une forme de fatalité par rapport à la manière dont le modèle démocratique aujourd'hui s'organise face à ces défis environnementaux. Donc je dirais finalement, pourquoi pas essayer autre chose avec ces 150, donner finalement la parole aux Français. Peut-être que ça c'est un peu de fraîcheur, peut-être que ça peut donner quelque chose.
Ils peuvent nous étonner en fait, c'est ça. Oui. Parce qu'on disait le gouvernement attend deux trois choses. L'idée, est-ce qu'ils vont avoir la liberté d'innover et de trouver des choses surprenantes et que du coup ça fasse un peu bouger les lignes.
Mais vous avez entendu ce qu'a dit Étienne Girard qui lui,
je suis un peu d'accord avec lui aussi.
On court-circuite quand même le Parlement, Clotilde Ripoul.
Bah, normalement, ça devrait être après débattu. Enfin, les mesures en question devraient arriver au Parlement. Mais bon, l'ambition est quand même énorme puisque le but c'est de proposer des mesures qui permettent de diminuer de 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc voilà, l'ambition est très forte. Ce qui est étonnant, c'est la place des experts dans tout ça.
En tout cas, notre convention citoyenne à 4 citoyens s'interrompt, mais tout à fait momentanément. Hein. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des informés. Restez avec nous.
Bon, demain, j'ai un point avec mon expert comptable. Tu sais où sont passées mes dernières factures ?
Il les a déjà. Je lui transmets tout en temps réel. Par contre, tu as deux impayés. On ferait mieux de relancer tes clients.
T'oublies jamais rien, toi ?
J'ai oublié le code Wi-Fi. Une fois.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
CAFPI, expert en crédit, recrute. S'épanouir au travail, c'est important pour vous? Explorez de vraies opportunités de carrière partout en France sur recrutement.cafpi.fr.
CAFPI, propulseur des talents, courtier en opérations de banque et assurance, immatriculé à l'ORIAS.
Rejoignez-nous sur recrutement.cafpi.fr.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
Sébastien Léas.
Une nouvelle perturbation va glisser sur le pays demain, apportant un ciel couvert et des pluies en matinée entre les côtes normandes, la Picardie et le Grand Est, jusqu'au nord du Massif central et au Savoie. Le pourtour méditerranéen sera à l'écart et aura une journée sous le soleil, mais dans une ambiance bien ventée. L'après-midi, les pluies deviendront moins régulières, mais il faudra encore s'attendre à quelques passages humides entre l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne et l'Île-de-France, jusqu'à l'heure la Seine-Maritime et la Somme. Le long des frontières nord, le ciel sera un peu plus variable avec des éclaircies qui vont s'élargir. Le soleil se montrera aussi plus présente dans le sud-ouest l'après-midi. Sur le reste du pays, les nuages l'emporteront largement et seuls quelques trouées arriveront à se dessiner, un peu plus nombreuses demain après-midi. Les températures maximales iront jusqu'à 25 degrés à Lille, Nancy et Besançon, 17 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 19 degrés à Vannes, Tours et La Rochelle, mais on attend 22 degrés à Toulouse, 23 degrés à Nice et 25 degrés à Marseille, Montpellier et Calvi.
La prévision météo signée Sébastien Léas, allez, dans 8 secondes maintenant, il sera 20h30. Pour l'info, on retrouve François Lepage. Bonsoir François.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 8 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, l'association Respire obtient gain de cause. Un expert indépendant est nommé pour analyser les dégâts liés aux flammes et au dégagement de fumée. La préfecture et les services de l'État refusaient la tenue de cette contre-étude, mais le tribunal administratif de Rouen a tranché. Il donne raison donc à l'association dont l'avocate est Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, y voit un grand pas vers la recherche de la vérité.
Très contente parce que l'État s'y est vigoureusement opposé. Le préfet a fait 2 mémoires pour dire qu'il n'en voulait pas. L'ARS s'y est opposé, le SDIS s'y est opposé. Donc le tribunal nous a donné raison avec en gros la mission que j'avais demandée et un des experts que j'avais proposé. C'est une mission qui va permettre de communiquer les pièces. L'expert doit se rendre sur le site, identifier les habitations concernées, se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission, de procéder au prélèvement de matières polluantes libérées pour permettre des éventuelles analyses et études ultérieures.
Et à votre connaissance, quand est-ce que cette mission va entamer ses travaux ?
Écoutez, j'ai pas eu encore l'expert au téléphone, mais la semaine prochaine, je pense.
Et Corinne Lepage, pendant ce temps, les opérations de pompage se poursuivent sur le site. Elles vont durer encore plusieurs semaines. Le parquet antiterroriste reprend la main ce soir au lendemain de l'attaque au couteau à la préfecture de Paris. Il se saisit de l'enquête après la découverte de nouveaux éléments lors de certaines auditions et des premières exploitations du téléphone de l'agresseur. Cet informaticien de 45 ans sans antécédent connu a tué 4 de ses collègues hier. Il s'agit désormais d'une enquête pour assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. L'agresseur a acheté son couteau le matin même. Il a ensuite envoyé un SMS à sa femme pour la prévenir, semble-t-il, de son acte. En garde à vue depuis jeudi, son épouse a dit aux policiers que son mari avait entendu des voix la nuit précédant son acte. Il aurait eu une crise de démence. Un lycéen de 15 ans mortellement poignardé ce matin aux abords d'un collège d'Elida, tout près de Paris, en Seine-Saint-Denis. La victime se serait interposée lors d'un conflit entre deux autres jeunes de deux quartiers différents. L'origine de la rixe est pour le moment inconnue. L'auteur présumé des coups de couteau, âgé de 15 ans lui aussi, a été interpellé à son domicile. Il est actuellement en garde à vue, tout comme deux autres mineurs de 14 et 15 ans. Une semaine après Aigle Azur, la fin également d'XL Airways. La compagnie aérienne française a été placée en liquidation judiciaire aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la seule offre de reprise déposée. XL Airways employait 570 personnes. À Hong Kong, le port de masque pendant les manifestations est interdit à partir de demain. Le gouvernement a activé une très ancienne loi d'urgence pour tenter de mettre fin à la contestation commencée il y a maintenant 4 mois. 20h33 minutes sur France Info. Le retour des informés avec Olivier Delagarde ce soir.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie de Benjamin Grange, directeur général de Dentsu, de Clotilde Ripoul, présidente de l'Association nationale des élus locaux d'opposition, toujours avec Arnaud Clair, avocat au barreau de Paris, et avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne. Vous le savez, puisque vous nous écoutez toute la journée, France Info était à Grenoble aujourd'hui, première étape d'un long tour de France qui va nous emmener jusqu'au municipal. Alors Grenoble, où celui qui pourrait bien causer une forme de surprise n'est autre qu'Alain Carignon, si, l'ancien maire et ancien ministre condamné en 1996 pour corruption, fait un retour assez tonitruant en politique dans sa ville. Selon un sondage Odoxa CGI pour France Info, si Éric Piolle, le maire sortant, est crédité de 32% des intentions de vote, le second est Alain Carignon avec 20%. Il était l'invité de France Info ce soir et récuse d'ailleurs toutes les accusations de son opposant. Écoutez.
Je n'ai aucune leçon de transparence ni de morale à recevoir de la municipalité sortante. Et quand j'ai des comptes à rendre aux Grenoblois,
Alain
parce
Carignon.
Que j'ai commis des fautes que j'ai assumées. Et aux Grenoblois, oui, je dois la vérité, mais je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de Monsieur Piolle.
Voilà, Alain Carignon avec Jean-Jérôme Bertolus. Étienne Girard, est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu estomaqué par le score d'Alain Carignon, en tout cas dans ce sondage, hein?
C'est vrai que c'est un score important. Bon, faut constater tout de même que le total gauche est à 50%, que Éric Piolle, l'élu, le maire écologiste, est largement devant. Mais vous avez raison, il est premier opposant et c'est déjà en soi une performance. Donc on peut s'interroger pourquoi, c'est sûr. C'est la première question.
C'était ma question, vous voyez.
Qui vient. Alors c'est pas son premier retour. Faut noter ça. Hein. En 2007, il avait essayé d'être candidat aux législatives. Il est arrivé au deuxième tour. Il n'avait pas été élu. Il s'était fait battre par la candidate socialiste. En 2014, il était de nouveau candidat, pas en première ligne, mais sur la liste du candidat Les Républicains. Il n'a pas été élu non plus. Donc, il n'a pas forcément une cote historiquement depuis 10 ans incroyable dans la ville de Grenoble, mais tous les autres ont perdu. Tous les autres qui pouvaient remplacer Carignon, c'est-à-dire être le grand élu, le baron conservateur de l'Isère et de Grenoble, ont perdu, sont sortis du jeu. Donc, qui reste dans le jeu? Il reste le vieux crocodile, celui que tous les électeurs connaissent, qu'ils ont connu maire quand ils sont relativement âgés. Donc, en quelque sorte, il devient une valeur refuge pour un certain électorat conservateur de Grenoble qui n'apprécie pas trop la politique écologiste d'Éric Piolle. Bon. En cela, on peut voir une forme de logique.
Mais Benjamin Grange, expliquez-moi, vous qui êtes grenoblois, hein, finalement, quand on a été condamné pour corruption, finalement, c'est pas grave?
Je dirais pas ça. Je dirais surtout que y a la topographie de Grenoble, c'est qui est une cuvette, fait que l'environnement et la lutte contre la pollution.
C'est une marmite, là, même.
Voilà, mais une cuvette grenobloise.
Ouais.
Et en fait, ce qui fait que pour les Grenoblois, et d'ailleurs quand on pose la question, l'environnement et la lutte contre la pollution, c'est leur première préoccupation devant
la lutte contre la corruption.
Non, devant la sécurité des biens et des personnes, qui est leur deuxième préoccupation. Et finalement, c'est l'inverse du score national. C'est-à-dire qu'en national, c'est d'abord la sécurité des biens et des personnes. Et donc évidemment, ça donne un élément d'avance à Éric Piolle, qui jouit évidemment d'une logique de sortant, et qui profite d'un mécano politique assez insensé. Parce qu'en fait, la liste LREM, avec une candidate qui est très, très nouvelle,
Émilie Chalas, 18%.
Voilà, elle divise, comment dire, elle va sinon siphonner le score du PS. Et puis, on a Nice Carignon. Et je crois que c'est ça, vous l'avez dit, qui finalement est en train de vampiriser le score d'une éventuelle liste des Républicains.
6%.
Voilà. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation inédite où il y a le sortant qui est effectivement Piolle, qui est le favori. Alors, la campagne n'a pas commencé, donc c'est des intentions de vote,
il
faut quand même se méfier. Et puis, en fait, on a en face le seul qui reste, c'est effectivement Alain Carignon.
Clotilde Ripoul, est-ce que c'est pas ce que l'on appelait il y a quelques années la prime à la casserole?
Oui, peut-être. Ouais. Déjà, je pense que la sécurité des biens et des personnes, pour les gens, c'est pas la question de la corruption. Ils mettent pas ça du tout dans le même panier, si je puis dire. Après, on a un paradoxe français, c'est-à-dire que sur le plan national, il y a une défiance accrue vis-à-vis des politiques en général, que ce soit le président de la République, les parlementaires, et notamment les Français sont attachés à la probité. On voit que dès que quelqu'un a une affaire qui plane, on a vu des ministres démissionner pour beaucoup moins que ça. Mais sur le plan local, on a l'impression que là, on est dans le pays latin avec le clientélisme et que finalement, on le voit avec les Balkany où finalement les électeurs continuent à soutenir malgré les affaires. Bon, ce que je me dis quand même, c'est que la candidate La République En Marche aurait un peu regretté qu'Emmanuel Macron n'ait pas été jusqu'au bout de sa rénovation de la vie politique, puisqu'il était question d'écarter la possibilité, quand on a un casier judiciaire, de pouvoir se présenter. Parce que ce type de pratique, ça nuit quand même à la classe politique dans son ensemble. Et c'est un message extrêmement négatif pour notre République et notre démocratie. Le devoir d'exemplarité de l'élu, là, il est battu en brèche. Et c'est vrai que d'entendre M. Carignon parler de morale et d'éthique, ça fait frémir.
Arnaud Clair, qui est à côté de vous, va vous dire qu'on doit considérer qu'il a payé sa dette, qu'il a fait de la prison ferme, qu'il a le droit de se représenter.
Exactement. Parce que voilà, c'est après, vous parlez de démocratie.
Mais l'éthique, c'est au-delà de la légalité.
Oui, mais la légalité, ça permet à quelqu'un de se présenter. La morale, ça permet de faire en sorte qu'il ne soit pas élu.
Oui, mais
c'est pas la même chose.
Il y a des postes qui sont exclus dans le cas de certaines condamnations. Mais en politique, on serait au-dessus de ce type de...
Parce qu'en politique...
En
politique, on a quelque chose qui est extraordinaire en démocratie, c'est les gens qui votent. Et que on considère que le votant, il est plus fort qu'une loi qui interdit à quelqu'un de se présenter. Et puis, excusez-moi, mais la démocratie, c'est aussi de voir quelqu'un qui est condamné, qui fait sa peine, et après, il est réinséré dans la société. Après, les Français considèrent que moralement, ils ne sont pas d'accord. Bon, ils ne sont pas d'accord. Et le vote désignera leur choix.
Arnaud Clair, il y avait quand même une loi qui était en prévision quand M. Macron s'est présenté pour rénover la vie publique. Et sur la question de la probité des élus, il avait pris des engagements pendant sa campagne qui aujourd'hui n'ont pas été tenus. Forcé de le constater quand même.
Étienne Gérard, vous voulez rajouter un mot ?
Oui, il n'aurait pas pu de toute façon interdire à un élu qui a payé sa dette d'être candidat dans la mesure où le casier judiciaire est lié à une période et au bout d'un certain temps, on n'a plus de casier judiciaire. Donc aujourd'hui, Alain Carignon n'a plus de casier judiciaire, donc il demeure éligible.
Allez, 20h40 sur France Info, l'heure de l'info, Jules Le Guisse.
Le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'agression mortelle hier à la préfecture de police de Paris. Les investigations ont progressé et elles éclairent d'un jour nouveau le meurtre de ces quatre fonctionnaires par leurs collègues. L'auteur des faits, converti à l'islam depuis plus d'un an, a acheté son couteau le matin même. Il a envoyé un SMS à son épouse avant de commettre ces meurtres, qui lui a répondu « Seul Dieu te jugera ». L'enquête est donc requalifiée des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. L'adolescent de 15 ans, mort ce matin au Lila en Seine-Saint-Denis, en pleine rue tout près d'un collège, tentait de s'interposer dans une bagarre, d'après les éléments de l'enquête recueillis par France Info. L'auteur présumé du coup de couteau a le même âge que lui. Deux autres mineurs ont été interpellés et aussi placés en garde à vue. On ne peut pas généraliser le cas de la famille Menson, explique Coralie Dubost. La députée La République En Marche des Mines rappelle qu'en aucun cas le gouvernement ne compte légaliser la GPA en France, car la Cour de cassation vient de reconnaître entièrement la filiation de ce couple et de leurs deux jumelles de 19 ans. Elles sont nées d'une gestation pour autrui en Californie aux États-Unis. Et le sujet est sensible puisque dimanche a lieu la première manifestation des opposants à la loi de bioéthique qui comprend l'extension de la PMA à toutes les femmes. Et puis dans 5 petites minutes maintenant, c'est le début du match entre Amiens et Saint-Étienne en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 de football. Une victoire et les Olympiens pourraient provisoirement monter sur le podium du championnat.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Oh, il y a peut-être Amiens qui joue contre Marseille, mais les informés, c'est bien aussi, vous restez avec nous. C'est la polémique en trois lettres, GPA. Vous avez suivi ça, hein, et on va y venir. On va venir donc à ce vote surprise la nuit dernière à l'Assemblée. Surprise parce que le gouvernement y était hostile. L'Assemblée a donc adopté un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA dans un pays étranger. Autrement dit, et pour que vous compreniez bien, un enfant conçu avec l'aide d'une mère porteuse deviendra automatiquement français si les parents, en tout cas, le sont. Alors, il n'en fallait pas plus pour réveiller évidemment les opposants à cette loi légalisant la PMA pour toutes. Écoutez par exemple la réaction de Nicolas Bay. Il est député européen, Rassemblement National. Il était sur Europe 1 ce matin.
Les députés de La République En Marche ont voté. Monsieur Legendre prétend que c'est par erreur. Ils ont voté la reconnaissance de la GPA à l'étranger, c'est-à-dire la reconnaissance dans le droit français de la GPA et de ses conséquences juridiques. Donc on voit bien que ceux qui nous disent qu'ils sont uniquement pour l'extension de la PMA, mais qui veulent pas s'engager sur le terrain de la GPA, en réalité, sont assez hypocrites dans la démarche.
Voilà, Nicolas Bay. Parallèlement, la Cour de cassation a jugé qu'une GPA à l'étranger ne peut pas faire seul obstacle à la reconnaissance en France d'un lien de filiation avec la mère d'intention, fermer les guillemets, autant d'événements qui semblent combler quand même un tout petit peu mal pour le gouvernement, 48 heures avant la manifestation des opposants à cette loi, Étienne Richard.
Étienne Girard.
Le
sujet, c'est surtout que le gouvernement a toujours expliqué que la GPA ne faisait pas partie de la loi bioéthique et que le gouvernement se retrouve aujourd'hui contredit par un petit groupe ou en tout cas par des députés En Marche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit groupe de députés La République En Marche qui s'est mis d'accord pour faire voter un peu par surprise, un peu par en douce, un amendement qui permet qu'une GPA faite à l'étranger permette la retranscription dans l'état civil de la parenté des deux parents. Le gouvernement n'était pas d'accord et se retrouve dans un certain désarroi.
Il sait pas tenir sa majorité alors.
Il y a eu un manque hein, à n'en pas douter sur cette question-là. Ils sont tellement furieux qu'ils ont demandé une deuxième délibération, ce qui est de droit, c'est pas souvent utilisé mais en cas d'anicroche comme ça, le gouvernement utilise parfois cette faculté. Il y aura une deuxième délibération sur cette mesure-là, avec des consignes de voter contre. On peut penser qu'il y aura plus davantage de monde dans l'hémicycle à ce moment-là pour contrecarrer une initiative de leur propre majorité.
Arnaud Clair, hein, là, les juristes font de la politique.
Alors ça tombe, effectivement, c'est une grande journée, mais non, la question qui était posée notamment au juge, c'était est-ce qu'on doit reconnaître l'enfant? Et la deuxième question qui était plus compliquée, c'est comment fait-on? Parce que c'était ça la question, c'était de dire le père est reconnu comme étant le père, mais en France on considérait que seule la personne, enfin la mère qui a accouché de l'enfant doit être déclarée sur l'état civil comme étant la mère.
Et là, il y a une mère d'intention.
Voilà, la mère d'intention, parce que la Cour européenne des droits de l'homme nous a dit pour la vie, pour la protection de l'enfant, il faut quand même trouver une solution. À vous, le juge, de vous débrouiller pour me trouver la solution. Parce que l'idée, c'était quand même de dire qu'aujourd'hui, vous aviez donc un enfant qui était avec une mère porteuse, mais qui, en France, sa mère de tous les jours n'était pas reconnue. Et d'ailleurs, la Cour de cassation, aujourd'hui, nous dit, en fait, la mère d'intention est la mère de ses enfants depuis 18 ans. Et dans ce cas-là, moi, ça me suffit pour considérer qu'elle peut être officiellement la mère de ses enfants.
Mais expliquez-moi, en droit, ça veut dire que, et comme le disent les opposants à la loi, en fait, la porte s'ouvre à la GPA, mécaniquement?
Non, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous dit « Vous devez trouver une solution pour protéger l'enfant. Et la protection de l'enfant, c'est trouvez-moi une solution pour que sa mère d'intention, sa mère réelle de tous les jours, pas celle qui a accouché de l'enfant, qui est aux États-Unis et qui ne s'occupe pas du tout de cet enfant-là, puisse être malgré tout reconnu, parce qu'il faut que l'enfant puisse légalement avoir une mère, et c'est mieux que ça soit celle qui s'occupe de lui tous les jours.
Clotilde Ripoul, ça tombe mal pour le gouvernement? Du coup, ouais, ça va mobiliser les anti-PMA?
On ne sait pas si c'est du cynisme ou de l'amateurisme. C'est-à-dire que, quand même, moi, j'ai du mal à penser qu'un gouvernement avec un parlement aussi moutonnier, enfin un groupe parlementaire aussi moutonnier depuis le début de la mandature, tout d'un coup, il y ait un petit vent de rébellion.
Mais c'est parce que Macron était à Rodez, alors
oui,
voilà,
ils en profitent. Moi, je n'y crois pas trop. Alors, est-ce que le gouvernement a voulu lancer un ballon d'essai? De toute façon, ça avait déjà quand même couru. France Info s'en est fait l'écho à un moment d'une loi sur la GPA. Donc, est-ce qu'ils ont voulu lancer un petit ballon d'essai avant la manifestation pour voir? Moi, je trouve que tout ça est quand même assez pernicieux, parce que d'une part, ça risque d'amplifier les oppositions frontales entre les adversaires de la PMA, enfin de la loi en cours, et ceux qui la défendent. À un moment où le pays a plutôt besoin de concorde, on va accentuer les clivages. C'est vrai que ceux qui soutiennent la PMA ne soutiennent pas, enfin beaucoup sont opposés à la GPA, et donc ça sème le doute sur les intentions réelles du gouvernement. Et puis sur le plan juridique, il y a quand même un renvoi d'ascenseur du gouvernement vers. J'entendais François Molins s'expliquer que. La décision n'avait pas force de loi finalement. Enfin, c'était une décision.
C'est une jurisprudence.
Un cas précis. Mais il avait l'air de renvoyer ça devant le gouvernement. Donc, effectivement, tout le monde se renvoie la patate chaude. C'est pas très clair. Il y a une confusion générale qui est pénible.
Benjamin Grange, on avait l'impression finalement que cet examen de ce projet de loi se déroulait assez tranquillement. Et puis, tout d'un coup, tout prend feu.
Oui, tout prend feu et c'est une magnifique rampe de lancement pour la manifestation de dimanche. Je pense qu'ils n'auraient pas aimé mieux, parce que quand on regarde la manière dont est perçue la GPA dans les Français, par les Français, c'est véritablement une levée de bouclier. Le sujet bloque partout et le gouvernement d'ailleurs
C'est massif chez les Français.
Oui, c'est assez massif. Le gouvernement le sait bien. La PMA est un sujet qui passe à peu près dans l'opinion, alors que la GPA, vraiment, il y a une vraie levée de bouclier. Donc évidemment, quand il y a cet amendement, ça tombe très mal. Et comment c'est perçu? C'est perçu comme un camouflet de la part du gouvernement, comme finalement une tromperie pour un gouvernement qui s'est toujours érigé contre. Donc alors après, derrière, on a assisté à une phase de déminage. Tout de suite, Aurore Berger, Nicole Belloubet, tout ça. Ça a été plutôt pas mal géré le déminage, mais en même temps, le mal est fait. Et donc, la conséquence, c'est dans une époque de défiance, ça alimente quand même terriblement la défiance d'avoir ce type de couac.
Le mal est fait, Étienne Girard? Pensez ça aussi?
En tout cas, ça sème le doute. En effet, c'est pas du tout bon pour la majorité, pour Emmanuel Macron, qui souhaite quand même cajoler, en tout cas ne pas s'aliéner l'électorat conservateur, dont une partie pourrait être tentée de manifester dimanche. Donc, il voit pas du tout d'un bon œil une polémique sur ce sujet-là. Ce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas beaucoup de monde en séance et on peut faire basculer un vote dans l'Assemblée nationale avec relativement peu de députés. Ça veut aussi dire que la majorité de La République En Marche, elle est éclatée entre différentes sensibilités, plus à gauche ou plus conservatrice.
Allez, 20h50, dans un instant, on passe à notre dernier débat. Mais d'abord, Jules Dequys pour l'info.
Seul Dieu te jugera, c'est la réponse de la compagne de l'homme qui a tué hier 4 de ses collègues à la préfecture de police de Paris à un message envoyé juste avant qu'il ne passe à l'acte. Les enquêteurs ont analysé les données du téléphone de cet employé au service informatique, auditionné ses proches. On sait aussi qu'il a acheté son couteau le matin même. Au regard de ces éléments, le parquet national antiterroriste s'est saisi ce soir de cette enquête, requalifiée pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. La garde à vue de cette épouse est prolongée, elle peut durer encore 3 jours. L'adolescent de 15 ans mortellement poignardé ce matin au Lilas en Seine-Saint-Denis tentait de s'interposer dans une bagarre. Il a été tué dans la rue, tout près d'un collège, dans cette altercation avec d'autres mineurs d'une quinzaine d'années. 3 de ces jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue. Les avions d'XL Airways ne voleront plus. La compagnie sera liquidée ces prochains jours et les 570 employés licenciés. Le tribunal de commerce de Bobigny rejette la seule offre de reprise qui n'apporte selon lui pas assez de garanties. Aux États-Unis, le taux de chômage atteint un niveau historiquement bas, 3,5% grâce à une hausse de l'emploi en septembre. C'est du jamais vu depuis 50 ans, ce dont se félicite Donald Trump à un peu plus d'un an de la prochaine présidentielle. Et puis, coup dur pour le Paris Saint-Germain qui joue demain contre Angers en Ligue 1 de football. Kylian Mbappé est forfait, touché à la cuisse. Une rechute qui pourrait aussi priver l'attaquant des deux prochains matchs de l'équipe de France, les 11 et 14 octobre.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Avec notre dernier sujet, je sais que vous l'attendez impatiemment, la guerre est-elle déclarée entre les néo-ruraux et les campagnards? Question qui se pose puisque depuis quelque temps, les plaintes se multiplient de la part de ces habitants des grandes villes qui viennent s'installer donc dans les campagnes, qui ne supportent pas ici le bruit des cigales, là le chant matinal du coq, ailleurs encore les cloches qui sonnent de manière intempestive, à tel point qu'un député, un républicain, Pierre Morel à l'huissier, a déposé une proposition de loi pour préserver les bruits et les odeurs de la campagne. Si. Qu'est-ce que vous inspire cette démarche, Arnaud Clair?
Alors d'abord, j'espère qu'il y aura aussi le bruit et les odeurs des villes industrielles et des villes urbaines. Limiter ça à la campagne. Non, moi je trouve ça, pas ridicule, mais ça montre d'abord qu'il y a une certaine... les Français ont peur, ils ont peur du changement, ils ont peur de perdre certaines choses. C'est vraiment une idée de nostalgie qu'il faut conserver. Et puis l'autre chose tout de suite, c'est que quand vous regardez le projet de loi, c'est encore bien un truc à la française, c'est qu'on va créer donc une commission départementale dans chaque département qui va vous faire la liste et l'inventaire des bruits et des odeurs qu'il faut protéger. Et s'ils sont protégés, je ne pourrai plus jamais me plaindre du bruit et des odeurs en question. Donc j'attends avec impatience la fameuse commission départementale et la liste des bruits et des odeurs. Et j'espère qu'on fera aussi ça pour les villes, parce que vous avez également des associations qui vous disent qu'il faut défendre la mémoire industrielle des villes, et ça peut passer par
le bruit des
autobus,
l'odeur du gasoil, d'ailleurs est bien menacé à Paris par Anne Hidalgo. Clotilde Ripoul.
Ouais, c'est un député qui a voulu faire parler de lui. Je sais pas, Monsieur Morel à l'huissier doit pas avoir suffisamment de sujets lozériens à traiter et il a trouvé un coup de com' à faire.
Ouais, mais c'est un truc dans la société quand même.
Maintenant,
un peu.
Je pense que ça traduit plus la judiciarisation de la société, parce qu'à Perpignan, des riverains qui avaient été consultés par quelqu'un qui voulait avoir un coq dans son jardin et qui avait accepté, ont fini par porter plainte contre lui parce que finalement le coq criait trop. Voilà, ils ont perdu du reste. Enfin, donc ce genre de problématique, on le trouve aussi bien en ville qu'à la campagne, c'est la difficulté pour les gens à vivre entre eux, en bon voisinage. Et comme maintenant on est dans une société où, pour le bonheur de certains, on fait plus appel à un avocat pour aller devant le...
On sait, ça fait les affaires d'Arnaud Clair, tout ça.
Finalement, ça traduit plus cette tendance-là. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Après, le côté néo-ruraux et ruraux, je pense que c'est un peu exacerbé, parce que ça fait de bons sujets.
Voilà, c'est des caricatures des médias. Voilà.
Disiez que les agriculteurs étaient aimés. Je pense que quand les gens vont s'installer à la campagne, c'est qu'ils en ont envie et c'est pas pour se plaindre.
Oui, mais il ne faut pas que ça sente mauvais ou que les agriculteurs se mettent à utiliser leur tracteur.
Mais de là
tôt.
À dire que c'est la délicieuse odeur du tas de fumier, j'y crois pas non plus.
Benjamin Grange, qu'est-ce que ça dit que c'est difficile de vivre ensemble dans la France de 2019?
Bah, je peux vous dire que ce sujet-là, il passionne pas les Français.
Ouais. Bon, voilà. D'accord. Donc vous êtes en train de démonter mon sujet. Anxiogène pour bien commencer
tout,
le week-end.
Non seulement il passionne
mais vous,
pas,
il vous intéresse,
parle,
vous.
Mais il me passionne. Et d'ailleurs, je vais vous en dire plus. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de... Ils n'en parlent pas beaucoup, mais ceux qui en parlent, finalement, les conversations elles sont très clivantes. Parce que vous avez ceux qui disent, finalement, pour résumer, à la ville, les grincheux. Et finalement, qui disent, la campagne, c'est ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais finalement, vous, gens de la campagne, vous n'avez que ça à faire, occupez-vous de vos vrais sujets.
Voilà. Étienne Girard.
Oui, bah, c'est une proposition d'humeur qui n'a pas lieu d'être votée un jour forcément par l'Assemblée nationale, mais qui dénote d'un état d'esprit. Le député a voulu montrer un état d'esprit avec lequel on peut avoir de la sympathie. C'est mon cas. En effet, les traditions, notamment sensorielles, dans les campagnes, sont importantes. Il peut y avoir une angoisse que ces traditions-là soient dénaturées par un afflux de néo-ruraux. Alors tout de même, peut-être une nuance, faut pas que cette idée de patrimoine sensoriel devienne un totem d'immunité. Il y a quand même une idée dans le droit qui est l'abus de droit. Et si un campagnard se décide à faire crier son coq 15 fois par jour juste pour embêter son voisin, les gens ont de l'imagination. Et justement, ça devrait pas se plaider. Et le juge devrait être capable, quand bien même il y aura un patrimoine sensoriel, de statuer en faveur d'un abus de droit dans ces genres de cas.
Mais Clotilde Ripoul, ça ne veut pas dire quand même qu'il y a toujours dans ce pays une vieille et éternelle guéguerre entre les villes et les campagnes, les métropoles et les zones urbaines. Alors, on l'a vu beaucoup hein, au moment des Gilets jaunes. Hein.
Je ne suis pas sûre, mais qu'on ait envie de défendre le patrimoine, Olivier, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que c'est une chose importante.
Essentielle.
Voilà.
Essentielle.
Maintenant, cette idée de patrimoine sensoriel, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux.
Assez bidon. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, vous c'est parfaitement votre droit de le penser. Les informer, malheureusement, c'est terminé pour ce soir. On va informer des villes ou informer des champs. Hein. D'ailleurs, il me reste juste le temps de vous demander peut-être, Étienne Girard, de nous parler de la une de Marianne.
Oui, on revient sur l'incendie de Rouen avec un long reportage dans la ville. Les habitants sont en colère.
Eh bien, merci à vous. Merci également Arnaud Clerc, Clotilde Ripoul, Benjamin Grange. Les informés, c'est donc terminé. Mais évidemment, hein, vous restez avec nous puisque l'info continue sur France Info.